avions la dernière fois vu la sixième trompette et ce passage mystérieux. On dit intermède, mais ça c'est pas révélé. C'est la glose marginale. Je dirais le secours particulier de Dieu. Vu ce que représente la sixième trompette. Quand on voit la sixième trompette, on dit il n'y en a pas beaucoup qui doivent rester fidèles. Tellement tout est bousculé. Tellement tout est défoncé. Alors, c'est bon de regarder ce secours particulier de Dieu. Ce qui est vrai de la dixième trompette, de la sixième trompette est vrai aussi des autres, je crois. Mais c'est particulièrement vrai pour la sixième trompette. Chapitre 10. Joli. Parce que c'est quand même très beau. 10 et 11. Et je vis un autre ange vigoureux qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur la tête, et sa face était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Il me semble que c'est assez net, ça ne peut être que Jésus, le lion qui rugit, le bon pasteur. Est-ce que c'est aussi le lion qui rugit? Et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix. Et lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept trompettes et ne l'écris pas. » Alors, est-ce cette interprétation mystérieuse et secrète de la parole de Dieu, ce qui est très possible? La parole de Dieu peut impliquer des interprétations tout à fait intérieures, tout à fait divines. Parce que le petit livre ouvert, vous voyez, ça peut être toute la révélation. C'est un petit livre, ça. C'est pas grand chose. C'est peut-être ça, le petit livre ouvert. Comme de nouveau un appel à revenir à l'écriture. Ce que nous voyons. Ça, c'est sûr. Il y a un retour à l'écriture. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi l'évangile de Jean, le petit livre, ce qui ne m'étonnerait pas. Parce que Jean, après avoir vécu l'Apocalypse, n'a qu'un seul désir, c'est de donner le petit livre qu'il a reçu. Et c'est un livre qui implique des secrets. Celle ce que t'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrivent pas. Le mystère comme tel, les secrets ne s'écrivent pas. Ils sont scellés au plus intime de notre cœur. On doit en vivre. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, et la terre, et ce qui s'y trouve, et la mer, et ce qui s'y trouve, qui n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendra, quand il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel parlait avec moi de nouveau et disait « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et la terre. » Et j'en allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends
et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume. Mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Très mystérieux. Alors le ventre et la bouche. Alors est-ce que le ventre exprime la manière dont les hommes comprennent l'écriture? Et la bouche, la manière divine de l'entendre? Ce qui ne m'étonnerait pas. Ce retour à l'écriture qui a eu lieu a provoqué à la fois une très grande amertume. Et quand on dit tout simplement il n'y a qu'une seule parole authentique du Christ dans l'Écriture. La parole de l'Évangile d'aujourd'hui, aimez vos ennemis. C'est la seule parole authentique pour certains exégètes d'aujourd'hui qui suivent certaines méthodes exégétiques. Alors ça remplit évidemment notre cœur d'amertume, nos entrailles d'amertume. C'est affolant. Et c'est vrai, quand vous regardez certains résultats de la méthode exégétique, il n'y a plus grand-chose. Et la bouche, alors de tout ça, ceux qui désirent être comme des enfants. Je me demande, c'est sûrement très délicat à interpréter. Ce qui est sûr, c'est que ce retour à l'écriture, ce petit livre qui est donné, on demande de le manger. Avec avidité, donc de l'aimer. Et il y a un double effet. Contradis-toi. L'amertume et la douceur. L'amertume aux entrailles. Alors ce qu'il faudrait, c'est bien comprendre le symbolisme des entrailles. Et le symbolisme de l'amour de la bouche. La bouche est liée à l'amour, les entrailles sont liées beaucoup moins au fait d'assimiler et de posséder. La Bible de Stie dit: dévore-le pour le pénétrer de tout de son contenu, le bien assimiler. Il est amer parce qu'il prophétise le jugement, doux parce qu'il prophétise la miséricorde. Je veux bien, mais il peut y avoir aussi peut-être un autre sens lié au fait que dans la bouche, comme miel et doux, lorsqu'il le mangeait, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples, sur les nations, sur les langues, sur les rois en grand nombre. C'est pas terminé. C'est un renouveau qui exige de repartir avec un nouvel élan. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans ce moment. C'est le don que Dieu fait de ce petit livre. Il me fut donné un roseau, semblable à un bâton, en disant, lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent. Et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le hors dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations. Et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Alors c'est ça aussi très curieux. Donc on est toujours dans cette perspective très étonnante de ce dernier moment d'Église. On donne quelques aspects particuliers. Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel
et ceux qui se prosternent, comme si on assistait à une diminution de l'Église. Le petit reste, faut pas oublier, il y a eu le petit reste à la fin de l'Ancien Testament. Et c'est évident qu'il y a des églises qui expriment la jeunesse de l'Église et bien les vieilles églises où il n'y a pas beaucoup de croissance. Je dis pas en raison de leur vieillesse, mais en raison des luttes particulièrement fortes. Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent. Vous voyez, comme si tout, la force de l'Esprit Saint se ramène à quelque chose de particulièrement donné à Dieu. Le sanctuaire, l'autel et ceux qui s'y prosternent, tous les adorateurs de Dieu. Et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations. Et elles fouleront la ville sainte, pendant 43. Il y a tout un aspect, si vous voulez, qui est abandonné, qui est laissé de côté. Dans les très grandes luttes, il y a une tactique particulière de tout grouper autour du noyau central. Il y a un peu ça qui nous est montré. Dans les moments où tout va bien, il y a l'extension, il y a la croissance. Dans les moments où c'est dur, il y a nécessairement un effort très intense d'amour et puis un abandon. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Alors, il y a ce phénomène très curieux, on n'a pas parlé des témoins, mais tout d'un coup ils apparaissent. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Personne ne fait pénitence, alors il y a les deux témoins. Ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Ces témoins sont les prophètes, alors c'est le prophète Élie, n'est-ce pas, qui a ce pouvoir sur les eaux. Alors qu'est-ce que c'est que ce prophète Élie ici? Le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de toutes plaies autant de fois qu'ils voudront. Il y a un contraste, hein, parce que là, c'est les témoins de Dieu qui font ça, comme des grands prophètes. C'est pas du tout la même chose que ce qui a été dit avant pour les sons, pour les trompettes, je veux dire, tout à fait différent. Je crois que dans les trompettes, c'est l'action du méchant et de ses anges. Tandis qu'ici, c'est l'action directe des témoins. L'action des témoins pour rappeler au peuple de Dieu sa dépendance à l'égard de Dieu. Donc, lorsqu'il s'agit du démon, c'est une fureur, une jalousie terrible contre l'homme, contre la femme. Lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres et sur la place de la grande ville, qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc, il y a un petit signe, un rappel, pour montrer que cette dernière lutte est toute semblable au grand mystère de la croix. Le mystère de la croix est un sommet de toute la grande lutte de l'économie divine. Et il y aura à la fin des temps quelque chose d'analogue. On revivra, si vous voulez, le mystère de la croix. Je crois que c'est ce qui montrait quelque chose de très semblable. On ne sera jamais aussi proche de la croix. Donc l'humanité qui vivra à ce moment-là devra vivre le mystère de la compassion de Marie. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre est sur la place de la grande ville qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors comprenons bien, le mystère de la croix apparaît à tous comme la défaite la plus terrible du Christ, la plus grande défaite. Alors, est-ce que, lorsque nous vivrons cette grande lutte ultime, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de semblable par rapport à l'Église? Est-ce que l'Église ne vivra pas comme un cadavre sur la place de la grande ville, qui est appelée allégoriquement Sodome et l'Égypte? Toute la culture sera Sodome et l'Égypte. La sécularisation, c'est Sodome et l'Égypte. Sodome, c'est le point de vue mœurs, la totale décadence. Et l'Égypte, c'est la pure efficacité. Ça me fait assez trembler quand on voit ça, parce que c'est assez Sodome et l'Égypte actuellement. On ne peut pas nier. Et l'Église est comme un cadavre. Elle est comme un cadavre, c'est-à-dire que elle a les apparences de quelqu'un qui est en échec. Quelqu'un qui est en faillite, en fin de course. L'homme même où le Seigneur a été crucifié. C'est assez impressionnant, tu vois ça. Alors, les deux témoins, comprenez les deux témoins, qu'est-ce que c'est que les deux témoins? Les deux témoins, c'est Élie et Moïse. Ça, je crois qu'on peut le dire d'une façon assez nette. Mais attention, c'est Élie et Moïse. Ce sont ceux qui sont témoins de la transfiguration. Tout d'abord, pour l'Église, pour l'Église du Christ, qu'est-ce Moïse, l'Eucharistie? Qu'est-ce Élie, la Vierge? Je crois qu'on peut le dire. Il me semble qu'on ne peut pas dire autre chose. Ce sont tous ceux qui sont consacrés d'une manière particulière à l'Eucharistie. Il y a la Vierge Marie. C'est les deux témoins. Ça peut être dans le même ordre. C'est pas nécessairement séparé. Ça peut être aussi séparé. Mais ça peut être parce que les deux se tiennent, Marie et l'Eucharistie. Mais ça me semble assez net. Il y a le petit livre, un retour à l'écriture, avec une tendresse très particulière. voix beaucoup plus naïve et beaucoup plus profonde pour vivre de l'écriture et en même temps un renouveau au point de vue de la caresse et au point de vue de la Vierge Marie qui sont comme les deux témoins. Et alors la rage du démon, la rage de la bête fait que les deux témoins sont comme morts. Et c'est les cadavres. Oui, tu crois que c'est les cadavres. Et les cadavres des deux témoins sont sur la place publique, c'est-à-dire visible. C'est comme si dans l'église, il n'y avait plus rien. Même ceux sur lesquels on comptait apparaissent comme des cadavres. On considère cela comme des cadavres. On les voit comme des cadavres. Des cadavres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas adaptés à la vie contemporaine. Vous comprenez bien, le cadavre, ça peut prendre diverses fonctions. Ceux qui ne sont pas la fine pointe, quoi. Et par le fait même, ils n'ont plus audience. On les écoute plus. Le monde est parti dans une orientation totalement différente et les deux témoins qui pendant un certain temps ont eu audience, n'ont plus audience, plus aucune audience. Ils sont comme des cadavres. Et sur la place publique, sur la place publique, oui, sur le marché, là où normalement les gens viennent s'informer. Alors, vous pouvez prendre toutes sortes d'informations. La place publique aujourd'hui, ça peut être la télévision. Donc, ça peut être Sodome et Gomorre, là, Sodome et l'Égypte, je veux dire. La télévision, c'est peut-être très bien ça. Le lieu des informations. Le lieu de ce que représente la vie. Aujourd'hui, ça, c'est vivant. Alors, Sodome et l'Égypte. C'est comme ça qu'on les nomme, et ils sont comme des cadavres. C'est assez extraordinaire ce passage. Hein, là même où le Seigneur a été crucifié. Et des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. C'est-à-dire qu'on les méprise souverainement. On leur fait même pas des obsèques solennelles. Non, complètement extérieurs. Ils sont bons à rien. Le suprême mépris, hein, c'est par rapport à la mort, suprême mépris. Donc, on n'a aucun respect vis-à-vis de leur cadavre. Regarde, leur cadavre pendant 3 jours et demi, donc le temps du sépulcre du Christ, et ne les laisse pas mettre dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux et exultent et s'enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitaient sur la terre. Ils ont torturé ceux qui habitaient sur la terre, les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui n'avaient plus rien de spirituel et de divin et qui vivaient uniquement à la manière humaine. Dans les 3 concupiscences, dans les 3 conséquences du péché. Donc si c'est très fort de voir ça, de voir ce regard sur l'Église, même la parole de Dieu qui produit l'amertume, la parole de Dieu qui produit la douceur, parole de Dieu normalement fait l'unité. L'unité de la foi, c'est dans la parole de Dieu. Et même dans la foi ne peut pas changer. La parole de Dieu ne peut pas changer, mais on la juge selon les effets. Et dans certains, elle prouve l'amertume, dans d'autres la douceur. Les témoins, ils sont réduits au silence, comme des canards. Ils sont sur la place publique, comme des morts qu'on ne veut pas enterrer. Et qu'on les méprise jusque-là, un mépris total, jusqu'au bout. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Ils entendirent venant du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut une grande secousse. Et le dixième de la ville tomba. Et dans la secousse furent tués 7 000 de personnes. Et les autres furent saisis de peur. Et ils rendirent gloire à Dieu, le Dieu du ciel. Donc, c'est Dieu directement qui peut de nouveau se servir d'eux dans ce moment ultime et dernier. Et c'est, je crois, écrit avec suffisamment de force. Qu'est-ce qui va sauver l'Église ? La fidélité à ses 2 témoins. C'est-à-dire fidélité à l'Eucharistie, fidélité à la Vierge Marie. C'est les 2 témoins. Ça me semble net. Si vous avez une autre interprétation, vous me le direz. Parce que c'est toujours intéressant. Mais ça me semble la seule chose qu'on peut dire. Va, prends le livre ouvert. cette heure-là une grande secousse. Le dixième de la ville tomba. Et dans la secousse, furent tués 7000 vieilles personnes. Et les autres furent saisis de peur et se rendirent voir au dieu du ciel. Alors, après, nous avons la septième trompette. Et le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient: la royauté du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera pour les éternités d'éternité. Et alors nous avons les 24 vieillards qui devant Dieu sont assis sur leur trône. Ils tombèrent sur leur face, se prosternèrent devant Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, et de ce que tu as pris la puissance, la grande, et établi ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, et elle est venue ta colère. Et le moment de juger les morts, et de donner le salaire à tous les esclaves, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui règnent entre vous, aux petits, aux grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le sanctuaire de Dieu s'ouvrit, et celui qui est dans le ciel apparut, l'arche de son alliance, dans son sanctuaire. Alors l'arche de l'alliance, est-ce que c'est Marie? Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, une secousse et une forte grêle. Voilà comment se termine le septième son, la septième trompette. Oui, c'est au milieu d'une sorte de, j'allais dire à la fois un renouveau, et ce renouveau appelle de nouveau une fureur, et enfin un dernier renouveau qui est l'entrée dans le ciel. Parce qu'on peut dire, dans ce rythme particulier et difficile à préciser, très difficile, alors nous entrons avec le chapitre 12 dans quelque chose de tout à fait différent. Les signes, alors ne dites pas les sept signes, comme disent toutes les Bibles, parce qu'il n'y en a pas sept. Il faut dire les sept signes. Ça, c'est les exégètes qui disent ça par un souci de correspondance, mais c'est très faux. Il y a les sept sceaux, il y a les sept trompettes, il y a les signes, les trois signes. Je crois qu'il y en a que trois. Vous allez voir. Il y a les comptés. Et puis ensuite, on aura les coupes. Avec le jugement. Oui. Et là, on saisit bien, non pas la trame successive. Ce serait faux. Il ne faut pas mettre les sceaux, les trompettes, les signes, les coupes. Tout est en même temps. Et tout se retrouve tout le temps. Depuis le début. Ça qui est si difficile à interpréter. L'éternité dans le temps. Alors l'éternité dans le temps, c'est justement ce point de vue-là. C'est le regard de Dieu sur le développement de l'Église. Et le regard de Dieu sur le développement de l'Église implique tout cela. Implique les décisions de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. N'arrive que ce que Dieu veut. Absolument. Les exécutions, les trompettes, où on peut très difficilement discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Très difficilement. Il faut vraiment avoir un don de discernement. Il faut demander conseil pour pouvoir discerner. Quand on est pris dedans, c'est très difficile. Et même jusqu'au témoin, comme c'est difficile. Les signes, ça redevient lumineux. Et les coupes, ça va être quelque chose ça le signe pour moi, c'est la réflexion pour essayer de discerner cette lutte terrible que nous voyons dans l'exécution. Quel est l'enjeu du combat? Quel est l'enjeu du combat? Il nous est révélé par Dieu. Et ce sont les signes. Alors, chapitre 12, que nous connaissons bien et qu'il faut reprendre à l'intérieur de l'Apocalypse. Et apparut un grand signe dans le ciel. Notez, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc c'est la femme enveloppée du soleil. Le soleil c'est Jésus. Le soleil c'est la source de la lumière et de l'amour. Le soleil c'est Jésus, ça c'est sûr. Enveloppée du soleil, tout enveloppée de l'amour du Christ. La lune sous ses pieds, elle est comme nous, tout proche de nous, et en même temps très différente de nous. Nous sommes sous lunaire, elle est au-dessus, la lune sous ses pieds. Donc elle a un contact avec nous, corruptible comme nous, mais en même temps au-dessus. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Alors les 12 étoiles, c'est la doctrine. Elle est la reine des docteurs. Elle est la reine de la doctrine, de l'enseignement. Elle est la mère de tous les docteurs. Alors sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Et elle est enceinte. Alors vous voyez, tout le mystère de l'Immaculée Conception. Et le mystère de la maternité. Je crois que le premier aspect, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Ça, c'est l'Immaculée Conception. Dans toute sa splendeur. C'est exactement ce que nous affirmons pour le mystère de l'Immaculée Conception. Plénitude de grâce, complètement échappe à toute corruptibilité, la lune sous ses pieds. Et pourtant, elle reste une femme. Elle reste de notre race. Elle est pleinement de notre race. Et une couronne de 12 étoiles. Parce que l'Immaculée Conception lui donne cette splendeur déjà sur la terre. Il n'y a pas la moindre retour sur elle, pécamineux. Il n'y a rien du tout qui puisse tant soit peu ternir son cœur et son intelligence. Et donc son intelligence est toute pure, toute lumineuse. Et pureté du cœur, pureté de l'intelligence, et en même temps fragilité, puisqu'elle est de notre univers, et en même temps au-dessus de notre univers, la lune sous ses pieds. Donc une fragilité, mais une fragilité sans aucune complicité. Et puis après la maternité, mais elle est enceinte, et elle grille dans les douleurs, et les tortures, de l'enfantement. Elle est parfaitement mère et on prend sa maternité au moment même de la naissance. Et apparut un autre ange, l'autre signe dans le ciel, 2. Et voici un grand dragon rouge feu. Donc, dans une colère constante, rouge feu. Ayant sept têtes, et dit Gordon, l'intelligence parfaite. Et cependant, cette intelligence n'a plus sa vraie finalité. Elle est finalisée par la gloire. Et sur cette tête, sept diadèmes. Cette intelligence n'est plus au service de l'amour et de la puissance, mais finalisée par la gloire. Voilà ce qui me semble, si on prend ce langage symbolique. ciel et les chats sur la terre.
Le mépris souverain.
Par la peau.
Le mépris souverain.
De ce que représente l'ordre et l'harmonie de l'univers. Tout ça n'est rien. Alors, fais un coup de cou. C'est vraiment leur content même pas.
Se tint devant la femme qu'elle est enfantée pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Alors on nous montre l'intention de ce dragon. Ce dragon rouge feu, ce grand dragon puissant. Et en cette tête et 10 cornes, donc dès la puissance dépassant l'intelligence.
À quoi suis-je péché?
Ensuite envahir sur l'homme. Le premier déséquilibre de la créature spirituelle, ça a été le mauvais ange dragon. Il est devenu dragon, d'ange qu'il était. Il a perdu toute sa grandeur et sa dignité d'esprit à cause du péché. Il s'est replié sur lui-même. Mais cependant, il a gardé toute son intelligence et toutes ses possibilités de transformer l'univers est quelque chose de bon pour lui. Bon, il essaie d'être le roi d'un idéal terrestre. Donc c'est bien cela qui nous est montré. Et le dragon se tint devant la femme qu'elle est enfantée pour dévorer son enfant. Lorsqu'elle l'eut enfantée, et elle enfanta un fils, un mâle, qui devait faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu, vers son trône. Voyez la scène. Il n'y a pas de zone neutre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Nous ne voudrions toujours une zone neutre. On serait tellement heureux d'avoir une zone neutre, indifférente, dans laquelle il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de contrariété, il n'y a plus d'opposition, il y a une zone neutre. Il n'y en a pas. Immédiatement, l'enfant doit regagner le ciel. C'est extraordinaire pour montrer, voyez, comment dans l'âme du Christ, il y a la vision béatifique. Parce que c'est vrai, il n'est pas remonté tout de suite au ciel. Et pourtant, il est remonté tout de suite au ciel. Parce qu'il avait la vision béatifique au plus intime de son âme. Symbolique des chiffres. Ils me le diront. Parce que moi j'ai toujours l'impression que cette symbolique de chiffres
caché. Et cette symbolique des chiffres le maintient caché. Parce que s'il y a un lieu où tu aurais dû révéler des dates, c'est bien là où il ne le révèle pas. Et le début et la fin sont au-delà du temps. Et donc celui qui veut à tout prix trouver une mesure du temps, là, il fait erreur. Et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges, et ils n'eurent pas le dessus. N'en retrouva plus leur place dans le ciel.
Thank you.
vraiment sur l'origine de la lutte. Et comprendre que cette lutte qui existe entre elle et le démon, elle repose sur cette première haine qui existait dans le ciel. Le premier péché est dans le ciel. Vous savez.